Au nom de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Djamila Topin.
Au sommaire de cette édition, insécurité au Burkina, 12 militaires et 4 VDP tombés dans une attaque à Namisi-Guima, dans le centre-nord. Rocco Caboret est libre mais subit des restrictions de liberté, c'est ce qu'a annoncé son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Aujourd'hui, c'est vendredi et comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'éditorial version Radio Méga. Avec Wesin Louis Houlon, il sera question du long feuilleton du procès Thomas Sankara qui a finalement connu son dénouement mercredi dernier. Ce sont les principaux titres. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Radio Méga. Insécurité au Burkina, 12 militaires et 4 VDP tombés dans une attaque à Namisi-Guima dans le centre-nord. Ce vendredi 8 avril 2022, une attaque complexe a visé le détachement militaire de Namisi-Guima, province du San Matenga, région du centre-nord, aux environs de 5h du matin, informe l'état-major général des armées dans un communiqué publié ce 8 avril 2022. Le bilan provisoire établi à l'issue des combats fait état de 12 militaires tués et 4 VDP tombés ainsi que 21 militaires blessés. Des dégâts matériels ont également été enregistrés. Des renforts ont été déployés pour sécuriser la zone selon le chef d'état-major général des armées. Le chef d'état-major général des armées salue la mémoire des soldats tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il rassure l'opinion que les opérations de sécurisation du territoire vont s'intensifier conformément à la vision définie par le chef suprême des armées. Et un mois après sa prise de fonction, le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation de la sécurité, colonel-major Omer Bationo, prend langue avec les différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Après la gendarmerie nationale jeudi, ce vendredi, il était dans les locaux de la Direction générale de la police nationale à Ouagadougou. Objectif, discuter essentiellement sur les difficultés que les policiers rencontrent sur le terrain afin de prendre des dispositions pour pallier à ces problèmes. Le compte-rendu de Marina Ouidraogo et de Jean-Paul Ouidraogo.
Le ministre de la Sécurité, colonel-major Omer Bationo, ici à la Direction générale de la police nationale. Il est venu échanger avec les premiers responsables de la police nationale sur les difficultés de cette institution afin de dégager des pistes de solutions. Colonel-major Omer Bationo, ministre de la Sécurité.
On a discuté essentiellement des difficultés que les policiers rencontrent sur le terrain, qui sont d'ordre logistique, équipement, formation, de sorte qu'on puisse prendre des dispositions pour renforcer cette institution de la République afin qu'elle puisse jouer son rôle pleinement dans le cadre de la sécurité intérieure.
À l'issue du huis clos, le ministre Bationo, reconnaissant des tours les nombreuses difficultés, le face-à-face a permis de faire des propositions pour que la police nationale présente un autre visage dans les 5 années à venir d'ici 2027. Colonel-major Omer Bationo, ministre de la Sécurité.
Il y a une très belle idée qui est sortie au cours de cette rencontre. Et on va penser à cela. Il s'agit de, carrément, comme au niveau de l'armée, de mettre en place une loi de programmation pour la sécurité intérieure. Cela va nous permettre de planifier pour que dans les 5 années à venir, on puisse trouver une police avec un autre visage et fière d'elle.
À la suite de cette visite, le ministre promet rencontrer le reste de la troupe qui est directement sur le terrain afin de recueillir les préoccupations qui sont les leurs.
Retour sur le procès Sankara qui a connu son épilogue mercredi dernier avec la condamnation à vie de Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Djendjiré. Nous avons donné la parole aux Ouaralais qui ont réagi par rapport au verdict du procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Si la majorité des citoyens interrogés apprécient ce verdict, ils se posent également des questions relatives à la nécessité de maintenir Gilbert Djendjiré en prison face à la menace terroriste. Le retour de Blaise Compaoré au Burkina alimente aussi les débats. Lui qui est en exil depuis octobre 2014 en Côte d'Ivoire. Des précisions dans ce reportage de Valérie Guéré et de Bethany Bambara.
Blaise Compaoré, Yacine Kafando et Gilbert Diendéré prennent la prison à vie. Dans les rues de Ouagadougou, chacun y va de son commentaire.
J'ai été vraiment très très content parce que pour moi, c'est maintenant que nous commençons à sentir cette indépendance de la justice vu le verdict qui a été donné.
Je pense déjà que c'est très bien. Du fait qu'il y a eu déjà un jugement, ça c'est déjà bien. C'est quand même une avancée pour le Burkina Faso. Ça veut dire qu'il y a des situations qui ne seront pas impunies. Et cela peut donner une leçon en tout cas à tout un chacun de nous.
Les Yacine, je ne vois pas trop. Mais bon, Gilbert Diendéré, avec son vécu, s'il y a quelqu'un qu'on peut peut-être condamner un peu plus, c'est la commanditaire.
Le Burkina Faso n'est pas en manque de ressources humaines. Et nous pensons que sans Gilbert Diendéré, la lutte peut continuer. Et ceux qui font leur prouesse sur le terrain, c'est sans Gilbert Diendéré.
La condamnation à la peine de prison à vie enterre-t-elle les chances de voir l'ex-président Blaise Compaoré rentrer de son exil ivoirien?
Là maintenant, ça dépend de lui. Il devrait venir d'abord même répondre. Ce que tu as semé là, c'est ça que tu vas répondre. Tu es vivant et tu vas souffrir.
Le procès Thomas Sankara restera dans les annales. Alors qu'on le croyait définitivement enterré, le dossier a ressurgi à la faveur de l'insurrection populaire d'octobre 2014.
Vous venez de suivre le reportage de Valérie Traoré, Bethany Bambara et Chalda. Et c'est un procès pour le moins inattendu, précisément en sa faisabilité, tellement tout semblait réuni pour être frappé par le fameux délai de prescription qui éteindrait le dossier 10 ans après les faits si une action en justice n'est pas engagée durant ce laps de temps. Le procès Sankara portant sur son assassinat, 12 de ses collaborateurs le 15 octobre 1987, a donc pu se tenir 6 mois, c'est la durée du procès et les principaux accusés ont été reconnus coupables. Plus de 34 ans après, voici l'opinion d'Omega Media sur ce procès, c'est dans l'éditorial de Wézin Louis Houlon.
Les dieux de la justice sont tombés sur les têtes des accusés dans le procès du capitaine Thomas Sankara. Le juge a finalement eu la main lourde dans un dossier improbable de justice dans lequel tout semblait perdu pour les victimes et leurs familles. Comme dans un match de football, c'est dans les ultimes prolongations que les avocats de la partie civile ont arraché de haute lutte l'enrôlement du dossier par la justice militaire burkinabé le 3 octobre 1997, à seulement 12 jours de l'expiration du délai de la prescription. Près de 35 ans après la mort de Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs, le procès a enfin livré son verdict. Le juge n'a pas du tout suivi les réquisitions du procureur qui demandait 30 ans de prison ferme pour Blaise Compaoré et Yacine Kafando. 20 ans pour Gilbert Diendéré. Ils doivent tous passer le reste de leur vie en prison. La bonne surprise pour les deux médecins acquittés. Pas de chance en revanche pour Jean-Pierre Palme et Thibault Ouédraogo, 10 ans. Le miracle pour Bossouvé Traoré, présenté pourtant par tous comme étant la taupe du coup. Gilbert Diendéré écope finalement de la même peine que les fuyards, alors qu'en la matière, les absents ont généralement tort. 30 ans dans les vies de Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Yacine Kafando, ce n'était pas déjà une sinécure et la perpétuité, on pouvait s'en passer, sauf si le juge a voulu mettre une balise en prévision des révisions en appel et en cassation. Mais quoi qu'on dise, ce verdict ajoute à la complexité de l'équation réconciliation que Zéphirin Diabré a refilé à Yeroboli. Le juge ne donne-t-il pas définitivement raison à Blaise Compaoré qui a toujours refusé de rentrer au bercail? Vu du côté des victimes, ce procès paraît bien juste. Au regard de la durée du deuil, 34 ans et demi, mais surtout les conditions du drame, ajoutées au fait que les familles n'ont pas du tout pu voir les corps de leurs proches, leur identification formelle, objet toujours d'analyse au laboratoire. Le sorcier et la victime n'ont pas toujours les mêmes éléments d'appréciation des faits. Pour sûr, le dossier Sankara fera toujours objet de débats chauds. Sankara, où qu'il se trouve, appréciera ce procès, qu'il ait livré son verdict, C'est une évidence. Reste la piste du complot international, sciemment mise en stand-by par le juge d'instruction et qui attend d'être approfondie pour savoir qui sont les têtes pensantes de ce coup d'État depuis Paris, en passant par certaines capitales africaines comme Abidjan et probablement Lomé au Togo. Il se dit beaucoup de choses de ce que le père de la révolution burkinabé gênait énormément certains pays occidentaux dans leur politique de soumission et d'aplatissement des dirigeants africains, si bien qu'il était aperçu comme un virus hautement contagieux. La justice burkinabé, qui prend des grades avec ce procès, mais qui ne devrait pas oublier la longue liste d'autres victimes silencieuses arrachées violemment à leurs proches et qui n'ont pas, malheureusement, la grosse machine de communication d'un comité international justice pour elles, dont les orphelins et veuves attendent toujours.
L'ancien président Roch Kabore, qui a rejoint son domicile privé mercredi dernier selon un communiqué du gouvernement, continue de subir des restrictions de liberté. C'est ce qu'a indiqué hier son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, dans un communiqué signé la veille. Des constats que nous faisons, cette libération n'est pas totale dans la mesure où le président subit toujours des restrictions de liberté, peut-on lire dans le communiqué de l'ancien parti au pouvoir. En conséquence, nous lançons un appel aux autorités de la transition à accéder aux différentes requêtes exigeant la libération sans condition du président Roch Kabore, a indiqué le MPP, qui rassure l'ensemble de ses militants que le parti suit avec beaucoup d'attention et de préoccupation ce dossier. Et le président de l'Assemblée législative de transition, Aboubakar Toguyeni, a reçu en audience hier l'ambassadeur de la Belgique et le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Burkina. Les représentants de ces pays amis sont venus réaffirmer au président de l'Assemblée leur accompagnement face à la crise sécuritaire que subit le pays. Compte rendu de Laetitia Bayala et Maïmouna Konaté avec la voix de Jean-Paul Ouédraogo.
La Belgique et le Burkina Faso partagent une amitié vieille de 52 ans. En échangeant ce jeudi avec le président de l'Assemblée législative de transition, l'ambassadeur de la Belgique tenait à rassurer Aboubakar Toguyeni que son pays n'hésitera pas à poursuivre sa coopération avec le Burkina Faso. Jean-Jacques Kairat, ambassadeur de la Belgique au Burkina.
Puis vous n'êtes pas sans savoir des liens un petit peu particuliers entre la Belgique et M. le Président de l'Assemblée. Dès lors, on a discuté aussi de ces liens d'amitié, de ces liens de coopération, notamment dans le domaine universitaire.
À sa suite, c'est le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Burkina qui a été reçu par le président du Parlement. Le Burkina, qui avait rompu ses relations avec ce pays en 1993, a réactivé en mai 2018 sa coopération avec la Chine populaire. Le chargé d'affaires a réaffirmé le soutien de son pays au Burkina face notamment dans la lutte contre le terrorisme. Wei Sheng Wang, chargé d'affaires de l'ambassade de Chine.
On va toujours accompagner votre pays pour régler le problème de sécurité. Je crois que tout à l'heure, j'ai parlé avec Monsieur le Président de la volonté de la Chine d'accompagner votre pays dans ce domaine-là.
En décembre dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères avait rassuré l'ex-chef de la diplomatie burkinabé Alpha Barry du soutien urgent de son pays dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.
Le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation tient un atelier de sensibilisation des juges consulaires sur les pratiques de la médiation et de l'arbitrage. L'ouverture de cet atelier s'est déroulée hier au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Ouagadougou. Régis Bonnier pour plus de précisions.
Les juges consulaires sont en conclave pour être mieux outillés et formés sur les pratiques de la médiation, de l'arbitrage et de la conciliation en milieu d'affaires. L'objectif principal est de les sensibiliser sur les bonnes pratiques à appliquer pour accomplir leur mission. Drissa Koulibaly, secrétaire permanent du CAMCO.
Ce qui est recherché à travers cet atelier-là, c'est de sensibiliser les juges consulaires. Et comme il a été précisé dans la salle, ces juges consulaires sont des entreprises qui participent à l'œuvre de la justice aux côtés des juges professionnels. Donc pour nous, ils vont être un bon relais d'information auprès des entreprises parce qu'à terme, ce qui est recherché, c'est que les entreprises intègrent donc dans leur culture entrepreneuriale la saisine du centre d'arbitrage de médiation pour les règlements de leurs litiges.
Le directeur général du CAMCO souligne l'importance pour les entreprises de recourir aux services de sa structure. Daouda Sawadogo.
L'avantage, c'est la rapidité, la confidentialité, la discrétion, l'indépendance des arbitres qui ont été désignés parce que les dossiers sont traités à huis clos. Et vous pouvez continuer à conduire vos affaires parce que ce n'est pas public. S'il s'agit d'un dossier qui va aller en arbitrage, dans tout les arbitres sont désignés par les parties, ainsi de suite. Et les sessions se font à huis clos. Et puis, bon, une fois que les sentences sont données, ça veut dire que les parties l'exécutent parce que les sentences au niveau de CAMCO ont force.
Le centre d'arbitrage de médiation et de conciliation de Ouagadougou en abrégé CAMCO a été créé le 11 janvier 2005 par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso sous l'impulsion du gouvernement burkinabé avec pour mission principale d'organiser et de mettre en œuvre des procédures d'arbitrage et de médiation au profit des acteurs du monde des affaires.
L'autorité des régulations de la commande publique, ARCOP, a commandité une étude sur les causes réelles de la mauvaise exécution des marchés publics afin d'apporter des solutions pérennes. Les conclusions de ces travaux ont été présentées à Ouagadougou ce mercredi dernier aux acteurs de la commande publique au cours d'un atelier de validation. Les détails avec Erwin Bayam avec la voix de Yagouba Wiliou.
L'effondrement de l'école primaire publique de Dandé dans les Hauts-Bassins et celui d'un bâtiment en construction de l'université Norbert Zongo de Koudougou sont entre autres des preuves de mauvaise exécution des marchés publics. Soulama Jean-Luc du cabinet Castor Ingénierie Expertise.
Des écoles qui ont été construites il y a de cela quelques années, où il y avait moins de professionnels du métier dans notre pays, coûtait presque à 25 millions ou 27 millions avec des coûts de matériaux pas chers. Au jour d'aujourd'hui, les coûts ont grimpé et les mêmes bâtiments sont construits à 18 millions, moins de 20 millions. Donc vous voyez qu'il faut revoir au niveau du dispositif réglementaire.
Ce rapport, une fois amendé et validé, servira de base pour plus d'efficacité dans l'attribution et l'exécution des marchés publics. Tairou Sanou, secrétaire permanent de l'autorité de régulation et de la commande publique.
À partir de l'approfondissement du diagnostic, eh bien, il appartient aux participants d'apprécier la pertinence des recommandations, des pistes d'amélioration qui sont proposées par le consultant, et ce, donc, afin de les valider. Comme je l'ai dit, à partir de leur validation, ces outils resteront comme un référentiel pour l'ARCOP dans le cadre d'un processus de relecture de la réglementation qui est en cours.
La contribution des participants permettra entre autres de vérifier la conformité de la réalisation des infrastructures aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de situer les responsabilités des acteurs intervenants dans le domaine.
La revue de presse.
Plusieurs sujets abordés ce vendredi par les quotidiens du jour. Du verdict du procès Sankara en passant par la réconciliation nationale, la liberté partielle de Roch Kabore, les allégations de massacre à Moura au Mali, nos confrères y vont de leurs commentaires. La revue de presse est présentée par Brigitte Yoda.
Verdict procès Sankara. Les juges ont courageusement dit le droit et rendu justice, peut-on lire à la une du quotidien relayant les propos de Maître Benewende Sankara. Pour le journal, ce courage, cette témérité et cette persévérance de la famille et des avocats de la famille Sankara est sans conteste une leçon, un enseignement pour la jeunesse toujours perméable au découragement et au désespoir. Un procès et un verdict bien pédagogique à tout point de vue qui doivent inciter à proscrire les coups d'État et la banalisation de la vie humaine poursuit le quotidien. Mais ce verdict semble diviser davantage les Burkinabés. En effet, pendant qu'ils se trouvent des uns pour prévenir qu'ils se mettront de travers contre toutes sortes de remises de peine, grâce par exemple, d'autres sont prêts, si la justice le permettait, à purger à leur place les peines prononcées contre Blaise et Gilbert, relate l'Express du Faso qui pense que Yero Boly, le ministre d'État chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, a des soucis à se faire, lui qui doit œuvrer à la réconciliation nationale. Roch Kaboré a regagné son domicile, mais le MPP dénonce une liberté partielle dont aujourd'hui au Faso, car le gouvernement a limité les visites chez Roch aux membres de sa famille directe. Si pour le pays, on peut estimer que c'est déjà une bonne chose a priori, que l'ancien président, qui était en détention depuis le 24 janvier, date à laquelle il a été déposé par l'armée, ait regagné son domicile, le journal se demande si ce sera suffisant pour amadouer la CEDEAO. Cela est probable, répond notre confrère, car les nouvelles autorités du Burkina donnent l'impression de ne pas chercher à caresser à rebrousse-poil la CEDEAO. Et ce d'autant plus que depuis le coup d'État du 24 janvier, elle semble bénéficier de la bienveillance de cette institution sous-régionale. Terminant par les allégations de massacre à Moura, au Mali, les FAMA veulent voir clair elles-mêmes, souligne aujourd'hui au Faso, indiquant que la nature et l'échelle des accusations a fini par s'imposer aux autorités maliennes qui, in fine, ont accédé au principe d'une enquête qui sera conduite par la gendarmerie. Ainsi donc, il ne sera pas question que des experts internationaux, notamment ceux de la MINUSMA, mettent les pieds sur le sable de Moura, fait remarquer notre confrère. Mais quel impact les résultats de cette enquête nationale peuvent-ils avoir sur les accusations portées contre les FAMA? Permettra-t-elle de savoir toute la vérité sur les événements dont cette ville a été le théâtre du 23 au 31 mai 2022? Voilà autant de questions que soulève cette posture de Bamako, conclue aujourd'hui au Faso.
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Adama Konaté. À la présentation, Jamila Setopa, merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés sur Radio Omega.